Antoine Decaune, pop, c'est sur France Inter.
Bonjour.
Et c'est maintenant. Bonjour.
Laetitia Gaillet, on vous retrouve tout à l'heure à 17h pour les infos.
Ok, ça marche, ouais, on va recommencer.
Ouais. Et en attendant, je laisse à nos invités d'hier le soin de lancer l'émission d'aujourd'hui.
Bonjour, c'est Jean-Charles de Castelbajac.
Bonjour, c'est Alice et moi. Pop, c'est parti.
C'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. C'est un président qui vous parle aujourd'hui. Un président éphémère, certes, mais ne le sont-ils pas tous? Oui, j'ai eu l'honneur d'être président d'un jury à l'occasion du premier prix Barbès en juin dernier. Un prix littéraire destiné à récompenser un ouvrage ayant un rapport avec la musique et surtout le mérite de sortir du triangle d'or germano-pratin où le tout littéraire a coutume de s'auto-congratuler dans un entre-soi qui n'étonne plus personne depuis longtemps. Un livre avait été récompensé à cette occasion, l'excellent Jewish Gangsta de Karim Madani, que nous avions reçu à cette occasion. Seulement voilà, un autre livre avait emballé le jury et son président, mais comme le sujet de Karim Madani nous semblait plus en adéquation avec le quartier cosmopolite et parfois interlope qu'est Barbès, tellement interlope d'ailleurs que pendant la remise du prix, l'infortuné patron de la brasserie où avait lieu la fiesta se faisait braquer sa recette, nous décidâmes, le cœur gros, de mettre l'autre livre en seconde position, le privant ainsi du prix si convoité. Mais nous allons réparer cette injustice en mettant aujourd'hui à l'honneur ce remarquable ouvrage. Et oui, on est comme ça, pop.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre 2018 et saviez-vous, ma chère Charline Roux, qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Beyoncé, les 20 ans de la création de Google et la date de l'abdication du dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, en 476?
Je ne le savais pas, Antoine.
Vous l'avez appris, car oui, c'est aussi ça la pop culture, quelques grammes de culture parsemés ici et là dans la... Bref, au menu de pop, la première pop prescription de Laurent Chalumeau, ça s'appelle « Quand Dieu boxait en amateur » et il nous éclairera tout à l'heure sur cette passion finalement pas si paradoxale de Dieu pour le ring. Mais avant de parler religion et uppercut, intéressons-nous à ma pop prescription de cette rentrée littéraire, certes celle de 2007, mais enfin ici on fait rien comme tout le monde, et à son auteur, bonjour Clovis Gou.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans Pop. Cette pop prescription, c'est la disparition de Karen Carpenter que vous publiez chez Actes Sud. Et c'est un livre dont le pitch est simple. Vie et mort du groupe culte The Carpenters, icône sonore et politiquement correcte de l'Amérique des années 70. On est d'accord?
Jusque-là, tout va bien.
C'est après que ça va se gâter.
Merci Clovis. On va se retrouver demain à 16h pour un nouveau numéro de Pop. Mais non, je plaisante, c'était The Carpenters. Alors, c'était quoi? C'était ça. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Bon, Close to You, une chanson de Burt Bacharach, hein, ils ont fait beaucoup de reprises, on va en reparler, des Carpenters. Mais là, nous sommes en plein cœur de la pop culture et ça tombe bien car ça fait désormais 226 émissions que je m'époumonne à poser une question. Et cette question, c'est toujours... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, je m'époumonne, je m'irrite la voix, ce qui m'oblige à me faire chaque soir des tisanes au thym. Enfin bon, c'est personnel. Et à cette question, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle d'Oxmo Puccino. Écoutez.
Pour moi, la pop culture, c'est le nombre de vues. C'est le nombre de vues aujourd'hui, parce que le nombre de vues appelle à l'intérêt. Enfin, ça appelle à d'autres clics. Et forcément, tout le monde se concentre dessus. À savoir, qu'est-ce qui a mobilisé autant de monde? Et je pense que c'est ça la pop culture aujourd'hui. C'est savoir ce qui fait bouger le monde à travers le nombre de vues.
La pop culture résumée au nombre de clics. Un avis sur cette définition, Clovis Gou? Mais attendez. Et pour vous, c'est quoi la pop culture, Clovis Gou?
Bah, je suis assez d'accord avec ce que dit Oxmo Puccino, mais j'ajouterais que, pour répondre à votre question, samedi dernier, j'étais dans une boutique H&M avec mon fils pour acheter des vêtements pour sa rentrée. Il a 8 ans, voilà, faut acheter des fringues, etc.
Comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle Abel.
Bonjour Abel.
Bonjour Abel. Et donc, voilà, et je vois au milieu de tous ces fringues pour gosses chez H&M à des prix modiques, parce qu'on va là-bas pour des prix modiques, il y avait un sweatshirt avec la banane du Velvet. Donc la première pochette du Velvet Underground à Nico. Et je pense que voilà, pour moi, la pop culture aujourd'hui, c'est ça. Et voilà, donc on peut s'interroger un peu sur la valeur symbolique de cette pochette. Il faut le rappeler que si on l'a, l'origine, c'est Andy Warhol qui l'a faite. Mmh. On peut la, c'est un truc phallique en gros.
Ouais, ouais.
Et voilà, c'est un peu bizarre de voir ça dans un dans les rayons pour gosses. Mais bon, pourquoi pas.
Et c'est l'intégration en fait de la contre-culture dans la grande
consommation. Voilà, dans la culture de masse. Ouais. Bon, voilà, on en est là. C'est que genre tous les codes ont été vidés de leur sens, et maintenant on n'a plus que des images. Je pense que tous les gens qui portent des t-shirts de Motorhead ou des Ramones ne les ont jamais écoutés. Donc voilà, on en est là.
Clovis Gou, avant de parler des Carpenters et avant de les écouter, écoutons le groupe de rock américain Eels avec ce morceau « Today is the day ». Today is the Day, c'est un morceau du groupe Eels, extrait de l'album The Deconstruction, qu'on pourrait traduire par la déconstruction. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Clovis. Alors ça court pas les rues des Clovis, hein. Nous avons un roi, un acteur, un écrivain. Lequel recevons-nous aujourd'hui? Bien, on va le savoir avec son pop portrait. Votre pop portrait, Clovis, c'est un portrait, mais...
À base de pop pop pop.
Et c'est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, nous recevons un amoureux, que dis-je, un obsédé de la Californie. Oui, je mets désormais des génériques dans les portraits pour amener une touche de théâtralité à ce qui est raconté, du rythme, mais aussi et surtout parce que Starsky et Hutch serait à l'origine du vif intérêt de notre invité pour le Golden State. Alors certes, les aventures de David et Ken, hein, mais pas que. La lecture d'Hollywood Babylon, de The Hollywood Book of Death et le visionnage des très très addictifs Hollywood Stories. Voilà pour le tropisme Los Angeles. Notre invité aime la musique en général, il écrit fort bien à ce sujet et il est aussi le cofondateur du label Dirty et les Carpenters en particulier. La légende veut d'ailleurs qu'en tant que journaliste, vous ayez signé des papiers sous l'alias Karine Charpentier. On vérifiera ça après. Des obsessions admirablement rassemblées et racontées dans La disparition de Karen Carpenter, formidable roman qui ne raconte pas cependant ce qui y est passé par la tête des scénaristes de la série Suscité quand ils ont écrit Bloodbath, un épisode dans lequel Starsky se fait capturer par une secte. Ah, moins que... Non.
Regardez-moi dans les yeux, oui. Clovis. Vous avez signé des papiers sous l'alias Karine Charpentier.
Ah, oui. des papiers en général où je parlais de drogue pour que mes parents que...
Vous repère pas.
Ne repère pas.
C'est tout.
Ouais, ouais.
Et cette histoire.
Oh non, grosso modo, non. J'avais un blog qui s'appelait Alain Finkielkraut-Rock et mon pseudo c'était Karine Charpentier. Mais à l'origine, j'avais fait un espèce de reportage sur la cocaïne, etc. Et j'avais utilisé le pseudo parce que mon père lisait la revue dans laquelle j'écrivais et je voulais pas
Bien. Vous faites réellement partie de cette génération traumatisée par cet épisode particulier.
Ah oui, vraiment. Ça, je l'ai vu. Et le directeur de la, enfin directeur de la secte. Non, le gourou. Le gourou en question s'appelait Simon. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai. Je l'ai revu. C'est dur à regarder Starsky Hutch maintenant.
Simon, comme notre assistant. Clovis, ouais. Karen.
Hasard, je ne crois pas.
Ne bougez pas. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec votre popiste. Hop. Nous vous avons demandé, Clovis Gou, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. Charline, vous qui avez un tempérament volcanique et cette obsession pour tout ce qui se lave, dites-nous deux mots sur ce roman.
C'est pire en pire. On y suit Geoffroy Firmin, ancien consul britannique démis de ses fonctions, qui déambule très très ivre à... Je vais tenter le nom de cette ville. Kwahanaunak, Le jour des morts. Le livre a été adapté au cinéma en 84 par John Huston avec Albert Finney et Jacqueline Bisset.
Bien. Alors avant de nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce livre comme livre culte, est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait, Clovis?
Ah oui, bien sûr. Et on va justement commencer par la fin, hein, parce que bon, tout le monde sait que le consul va mourir. Donc c'est le dernier jour de sa vie.
Ah, fallait pas le dire.
Ouais, non, mais c'est vraiment, c'est pas. Donc brusquement, il hurla. Son cri sembla se répercuter d'arbre en arbre dans la réverbération de l'écho. Et c'est alors qu'il vit se rapprocher de plus en plus leur foule, se regrouper leurs cimes qui se penchèrent sur lui par compassion. Quelqu'un balançait un cadavre de chien derrière lui, au fond du ravin.
Bien. Maintenant, expliquez-moi pourquoi ce livre compte autant pour vous.
Et parce que je trouve que c'est un livre totalement mystérieux. On a l'impression que que ça a été écrit par un sorcier ou un alchimiste. Moi, je l'ai lu plusieurs fois et je comprends pas comment il est fait. Et donc, j'aime beaucoup les choses qui
vous échappent,
qui m'échappent et que vraiment je comprends pas. J'ai l'impression de voir à la fois une peinture symboliste ou une œuvre du Caravage ou quelque chose. Surtout, ça se passe dans un pays que je connais pas, qui est le Mexique, le jour de la fête des morts. Donc déjà, il y a quelque chose de, c'est le dernier jour. De quelqu'un qui sait qu'il est déjà mort, si on peut s'exprimer ainsi.
Ouais.
Et il y a quelque chose d'assez qui est complètement fascinant dans ce livre. Et surtout, il est le premier chapitre est totalement obscur. Donc c'est comme s'il était fermé et qu'il fallait forcer la porte pour rentrer dedans. Et une fois qu'on a forcé la porte, ça demande un peu des efforts en fait.
C'est le livre auquel vous revenez.
Oui, il n'y a pas beaucoup de livres que j'ai lus plusieurs fois, et celui-là, en fait, c'est peut-être parce que je le comprends pas et qu'il m'échappe que je l'aime autant en fait.
Pour le film, vous avez choisi Le Messager de Joseph Losey. Charline, vous qui savez qu'il ne faut jamais tirer sur le messager, quel en est le propos?
Le messager, c'est Léo, 13 ans, qui raconte son histoire.
The past is a foreign country. They do things differently there.
Léo est issu d'une famille modeste et il est invité par son camarade Aristo à venir passer chez lui les vacances. Il devient le messager de la belle demoiselle de la maison et de son amant secret, un fermier local.
Pourquoi ce film Clovis Gou, dont la bande originale rappelle étrangement l'émission de Christophe Onglatte?
Oui, c'est un pastiche. Le fait entrer l'accusé, c'est un pastiche de la musique de Michel Legrand. Moi, j'adorais cette musique. Ouais. Et j'adore aussi Fait entrer l'accusé. Et maintenant, je fais une confusion entre les deux. Mais...
Alors pourquoi ce film? Pourquoi le messager de Losey?
Parce que je l'ai vu très jeune. J'ai pas tout saisi, mais je me suis complètement identifié à ce personnage qui doit avoir 10 ans. J'ai dû le voir à 10 ans également. Et je me suis totalement identifié à ce personnage en fait qui va faire le go-between, c'est-à-dire le messager. Entre une aristocrate et un fermier. Et ils ont une aventure qui est illicite, qui est impossible. Et en fait... au fur et à mesure, c'est là où où j'ai pris conscience qu'un amour entre une aristocrate et un fermier à cette époque, au début du siècle, était impossible. Il l'est pas beaucoup plus aujourd'hui. Et j'ai pris un peu conscience de la lutte des classes avec ce film. Voilà, bon, c'est un peu présomptueux, mais...
Vous auriez pu lire l'amant de Lady Chatterley.
Exactement, mais je ne l'ai toujours pas lu.
Ah bah alors, conseillez ? Mais oui, évidemment.
Voilà.
Magnifique. Bien, Clovis, passons à votre chanson. Et cette chanson, vous avez choisi Mother Sky de Can. Alors Charline, tout le monde se souvient de cette monographie que vous avez consacrée au groupe Can, le groupe préféré de Barack Obama d'ailleurs. Hein. Yes, we can. Rappelez à nos plus jeunes auditeurs, qui étaient ces tontons chevelus ?
Des tontons chevelus qui précisément faisaient du crotrock, si je ne m'abuse. Et pour la chanson en question, c'est une chanson de 14 minutes 30 enregistrée en 1970 pour la BO du film Deep End de Jerzy Skolimowski. C'est la journée où en fait il n'y a pas un nom qui va sortir normalement et je propose donc qu'on l'écoute dans son intégralité.
Allons-y. Alors 14 minutes 30, Charline plaisantait bien sûr, oui. C'est un poil long, mais que pensez-vous de ces bonnes 12 secondes que nous venons de vous offrir sur France Inter, Clovis ?
Je ne sais pas quoi vous dire, moi j'adore ce morceau, et voulez-vous que je vous dise pourquoi j'adore ce morceau ?
Oui, évidemment.
Par exemple ?
Bien sûr.
En fait, j'aime beaucoup les groupes de crotrock des années 70, donc vous avez résumé le truc, c'est des groupes, parce qu'en fait c'est des groupes qui ont décidé de faire table rase de tout héritage. Et ils se sont dit, voilà, on va inventer quelque chose de totalement nouveau au début des années 70 et on va essayer de créer la musique du futur. Mmh. Et alors que jusqu'ici, on allait grosso modo du blues au rock, enfin, etc. L'histoire était une continuelle mutation et d'héritage. Et eux ont décidé de revenir à zéro. Parce que de leur histoire, à cause de l'Allemagne, à cause de la guerre, etc. Ils voulaient pas être les héritiers d'Adolf Hitler, ils voulaient tout inventer. Et voilà, ça donnait autant Kahn que Neueux, que Kraftwerk. Kraftwerk est quand même le meilleur exemple, qui vont donner naissance à la techno.
Bien, il me manque une série, et dans le registre des séries, et ben là, tout d'abord, sachez que dès qu'une nouveauté fait son entrée dans la pop-list, je déclenche un jingle intitulé « Waouh, putain, un truc de ouf !» Mais sachez que quand j'ai vu la série que vous aviez choisie, j'ai dû commander un nouveau jingle, Clovis.
« Waouh, putain, un truc de ouf !»« C'est la folie !»
Ben oui, c'est la folie, c'est la folie. Parce que la série que vous choisissez, c'est celle-ci. Ah. Derrick, donc. Charline, pardonnez-moi si je trahis un secret, mais vous qui avez vu une aventure avec Horst Tapper, le célèbre interprète de Derrick, à l'époque où vous rédigiez la monographie du groupe Can, rafraîchissez notre mémoire.
Série mythique en 281 épisodes à la colorimétrie oscillant entre vert et gris, une série policière dans laquelle le temps semble s'être arrêté, définitivement. Et donc, comme vous le disiez, Stéphane Derrick était interprété par Horst Tapper de sinistre mémoire.
Ah, il vous a pas laissé un bon souvenir.
Il est quand même très très soupçonné d'avoir fait partie des Waffen-SS, donc très fréquent.
Erreur de jeunesse. Clovis, pourquoi aimez-vous tant Derrick ?
Erreur de jeunesse, effectivement. Mais ça ajoute en fait au charme de cette série de savoir qu'Horst Tapper a eu un passé dans les Waffen-SS. Et parce que, en fait, cette série, c'est une vraie radiographie de la société allemande des années 80, je pense, aux années 90, ça finit.
C'est un petit tropisme allemand, quand même, hein.
Oui, je sais pas pourquoi. En fait, je pense que Can m'a amené à Derrick très vite.
Un lien, ouais.
Et je trouve qu'il y a, Derrick, c'est comme Fassbinder, en fait. Il y a beaucoup de points communs avec l'œuvre de Fassbinder et de Derrick. C'est-à-dire que c'est deux radiographies. Il y a souvent des acteurs communs. Il y a une esthétique évidemment commune qui est le cacadois. Hein, donc on est surtout un éloge de la lenteur. Mmh. Mais il y a une vraie Derrick, c'est un inspecteur qui va dans toutes les couches de la société allemande.
Vous appelez ça un éloge de la lenteur, vous ?
Oui, surtout moi je le regardais après le déjeuner, comme je suis un peu journaliste, donc complètement dilettante.
Donc,
on a beaucoup de temps libre, donc après déjeuner on est un peu lourd, on a envie de sommeiller.
Pour la sieste, ouais.
Et j'ai pas vu beaucoup de faim d'Eric.
Après une bonne choucroute. Alors je résume. Au-dessous du volcan, le messager, Mother Sky et d'Eric. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
Nous pouvons descendre visiter la cave, j'aimerais voir les coffres du sous-sol.
Brusquement, il hurla. Son cri sembla se répercuter d'arbre en arbre dans la réverbération de l'écho. Quelqu'un balança un cadavre de chien derrière lui. au fond du ravin.
Comment vous sentez-vous, mon cher Clovis Gou, après cette expérience auditive ?
Bah, fort bien, j'ai l'impression de regarder un miroir en fait.
C'est troublant, non ?
Oui, ça fait peur.
Bien, Clovis Gou, avant de parler de The Carpenters avec votre livre, écoutons-les avec ce morceau « Yesterday Once More ».
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa still shines. Every yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by and the good times that I had makes today seem yesterday once more.
Yesterday Once More, signé The Carpenters dans Pop sur France Inter avec la voix d'or de Karen Carpenter. Et ça tombe bien car nous parlons des Carpenters aujourd'hui avec Clovis Gou, notre invité du jour. Clovis, vous avez publié La disparition de Karen Carpenter aux éditions Actes Sud. Un livre au pitch simple, je le répète, vie et mort du groupe culte The Carpenters, icône sonore et politiquement correcte de l'Amérique des années 70 et l'antidote. Donc, pour la classe moyenne américaine de l'époque, au cauchemar hippie qui a dominé la décennie. Comment vous est venue cette histoire ?
J'ai toujours adoré les Carpenters, que j'ai découvert il y a longtemps, dans les années 90. En fait, parce que j'ai un copain qui m'avait fait écouter la reprise qu'ils ont fait des Beatles, qui est Ticket to Ride, qui est une version très languide, très vaporeuse, etc.
On l'écoute, tiens, on l'a.
Voilà, c'est ça l'ambiance. Et suite à ça, en fait, il y a eu cet album de Sonic Youth qui s'appelle Goo, sur lequel il y a une chanson qui s'appelle Tunique, Song for Karen, et là où on apprend que Karen Carpenter est morte d'anorexie, etc. Mmh. Et tout d'un coup, moi j'avais acheté une compile avec les plus grands morceaux des Carpenters, etc. Et tout d'un coup, la tragédie de son existence donnait vraiment une aura totalement morbide aux morceaux des Carpenters. Mmh. Donc je me dis, il y avait quelque chose qui résonnait là-dedans, qui allait pas, qui pour moi était qui a été le révélateur des années 70, en fait, où après les 60s, qui étaient des années d'exploration musicale, etc. Il y a eu un total retour à l'ordre que les Carpenters ont incarné, mais également tous les autres groupes. Les Carpenters, c'était le front line du Parti républicain, si on veut, et de l'Amérique de Nixon. Mais il faut pas oublier que Neil Young, Bob Dylan, les Beatles, etc., c'était leur idéologie, c'était Back to the Roots et retour. Ils faisaient de la country, en gros. Hein, tu vois, il y a eu tout ce mouvement. Milieu des années 70.
C'est donc, vous le disiez à l'instant, grâce à Sonic Youth et ce morceau Tunique, donc on écoute quelques mesures. Où Kim Gordon raconte l'histoire de Karen Carpenter et de ses problèmes d'anorexie. C'est donc grâce à cette chanson que vous avez découvert l'envers du décor.
Ouais, exactement. Hein. Et après, bon, j'ai creusé. Moi, j'ai eu déjà une expérience avec une amie à moi qui souffrait d'anorexie et je trouvais ça c'est totalement mystérieux comme maladie mentale. C'est inexplicable et je trouvais qu'elle avait une espèce de force en elle qui était un peu surhumaine et que j'arrivais pas tellement à comprendre. Et donc, allier cette interrogation avec la surface totalement lisse des Carpenters, ça m'intéressait comme révélateur des années 70. En fait, je voulais vraiment parler des années 70 à travers ce bouquin, en fait.
Dans les biopics de musiciens susceptibles de faire de bons gros films hollywoodiens, il y a souvent les mêmes accidents de parcours, c'est-à-dire début difficile, énorme succès, passage à vide, drogue, puis rédemption. Celui-là est différent, plus noir. Est-ce que c'est aussi ce qui vous a décidé ?
Oui, parce que en fait, un des facteurs qui m'a décidé, c'est que je pense que Karen Carpenter, c'est quelqu'un d'ordinaire qui a été touché par la grâce, qui a eu un espèce de don de Dieu, en fait, qui est sa voix, qui est unique. Il n'y a pas 10 voix comme ça dans la pop.
Paul McCartney disait que c'était une des plus grandes chanteuses de toute l'histoire.
Quelqu'un de goût.
Oui. Au goût indiscutable.
Au goût indiscutable. Ouais. Et qui a une voix exceptionnelle, qui a un truc un peu funèbre dans sa voix, comme ça. Elle chante merveilleusement bien. Et elle n'était pas du tout destinée à être chanteuse, ça ne l'intéressait pas. C'était son frère qui voulait être une pop star. Mm-hmm. Et son frère, elle admirait son frère, donc elle est rentrée dans son sillage, dans son désir de gloire. Et lui a su l'utiliser et mettre en avant ce don. Mm-hmm. Donc c'était ça aussi. C'est ce que le côté Bernadette Soubirous de Karen Carpenter m'intéressait. J'aime bien les espèces de destins de sainte comme ça. Voilà.
C'est
ça.
Mais c'est un classique chez les artistes, hein, les musiciens comme les comédiens, le gouffre qui existe entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils sont. Et on découvre souvent trop tard, malheureusement, à quoi mène cette double existence. Mais j'imagine que c'est un sujet en or pour le journaliste que vous êtes, très amateur de récits de non-fiction.
Oui, bien sûr. En fait, je comprends pas la question.
Je dis que c'est un sujet en or.
Ah oui, c'est un sujet en or, oui, bien sûr. Mais et à la fois, je me suis dit, comme je suis journaliste, je me suis dit, l'histoire en tant que telle de Karen Carpenter n'est pas suffisante. Il fallait élargir le champ, parce que j'aurais pu très bien faire un article, le destin tragique de Karen Carpenter, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu, dans le bouquin, intercaler des pans de l'histoire des États-Unis de cette période. Mais pour moi, il y a un truc qui est important, c'est que je stigmatise pas du tout l'histoire des États-Unis. Pour nous, on a la même histoire. Et je suis pas du tout. Je force le trait, parce que ce qui est intéressant avec les États-Unis, c'est que c'est toujours beaucoup plus cinématographique. Voilà.
Plus large.
Parce que rappelons quand même, Clovis, sauf erreur de ma part, que vous êtes né en 71 et vous livrez quand même dans ce livre une radiographie de Los Angeles et de la décennie qui a précédé votre naissance, extrêmement précise. D'où vous vient votre culture d'un temps que les moins de 20 ans fois 2,5 ne peuvent pas connaître?
Ma culture, elle vient d'un peu partout. J'ai beaucoup regardé la télévision, j'ai lu. Voilà, en gros, hein, Mais et après, il y a quand même le désir de retourner dans la petite enfance. Ça, si on fait un peu de psychologie...
élémentaire.
Voilà, qui sont quand même souvent des années enchantées, en fait. Et donc, c'était de retrouver le climat de cette petite enfance à travers ce bouquin.
Parce qu'on parle aussi dans ce livre, vous le disiez, de pas mal d'autres choses, notamment l'assassinat de Kennedy, de la famille Manson. Vous livrez sur une page entière la liste des grands fléaux et tueurs en série américaine. Ouais. Une page d'ailleurs intégralement consacrée à cette énumération qui vient trancher au milieu du récit. Pourquoi ?
Parce que c'est vraiment l'émergence, après l'assassinat de Kennedy, il y a quelque chose qui se dérègle dans la société américaine, où la paranoïa reprend ses droits, etc. Il y a plus, c'est la fin des idéaux, des utopies, etc. Et c'est comme si un pays et voire l'Occident basculait dans la dépression. Et après, ça va être la crise pétrolière, etc. C'est la désillusion. Et voilà, c'était avant, on prenait du LSD et on fumait des joints. Après, on va prendre de l'héroïne. Voilà, en gros, c'est très dark ce qui va se passer. Jusqu'à le point d'orgue de tout ça, c'est l'apparition du disco, qui est la version hédoniste du punk, qui est totalement nihiliste, soi-disant. Voilà.
Le livre parle de musique, mais aussi de l'industrie, et l'histoire est loin d'être jolie parce que Karen Carpenter va s'y faire broyer. Est-ce que le parcours de Karen Carpenter a encore quelques résonances aujourd'hui, ou bien est-ce que tout est très différent ?
Tout à fait, c'est l'éternelle histoire des gens qui sont bousillés par la célébrité. Là, il y a un documentaire hyper bien qui sort sur Whitney Houston, où elle dit un truc hyper juste. Elle dit c'est pas le succès qui détruit les chanteurs, c'est la célébrité. Et faire la distinction entre les deux, c'est quand même essentiel. Et je pense que tous les gens qui ont été confrontés à la célébrité en savent quelque chose.
Karen Carpenter n'était pas seulement une voix d'or, hein, c'était aussi une batteuse plus qu'honorable, qui fut même élue batteuse de l'année en 75 dans un référendum du journal Playboy. Même que John Bonham, le batteur de Led Zeppelin, et l'un des plus grands batteurs de tous les temps, pour le coup, en avait fait tout un souk. Écoutez ce que ça donnait. L'ancien batteur, que je vous le dis, ça tient en l'air. Non, c'est une bonne batteuse.
Il paraît, hein, moi je suis pas du tout expert. Hein. J'ai de la difficulté à reconnaître les instruments, donc...
Alors ça, c'est une batterie, oui.
Mais ce qui est très intéressant aussi, et que vous racontez extrêmement bien dans le roman, c'est que la batterie, elle s'y cache aussi. C'est-à-dire le fait de passer devant et d'une violence inouïe pour elle.
Bah, c'est passer vers les lumières, vers la célébrité. C'est d'accepter de devenir célèbre. Ce qu'elle ne voulait pas du tout à l'origine.
Ça s'appelle « La disparition de Karen Carpenter » de Clovis Gou aux éditions Actes Sud. On va en reparler encore dans quelques instants avec Laurent Chalumeau. Mais en attendant, Clovis Gou, est-ce que vous savez faire ça ?
Je vais essayer. Non, c'est nul.
Pas mal, non, c'est un bon début. Ouais. Perfectionnable, bien sûr. Alors, c'est pour lancer les Pop News.
8 minutes d'ovation à Venise et selon la presse, je cite, la naissance d'une actrice. Ainsi sont les réactions à l'issue de la présentation du film Star is Born, première réalisation du comédien Bradley Cooper. Et après Judy Garland et Barbara Streisand, la star en question, c'est Lady Gaga, dans le rôle d'une jeune chanteuse pygmalionnée par un chanteur de country sur le déclin, Cooper en personne, extrait.
Can I ask you a personal question?
Okay.
Tell me something, girl.
Do you write songs or anything?
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
I'm falling.
Hey!
A Star is Born 2 et avec Bradley Cooper, Lady Gaga et Dave Chappelle, ce sera au cinéma le 3 octobre.
Comme il n'y a pas que des chanteuses qui vocalisent et des gens d'église aux mains baladeuses, saluons aussi l'hommage rendu par la garde royale britannique à l'immense Aretha Franklin. Et autant vous dire que ça avait de la gueule sans en faire des caisses. «
Respect devant Buckingham, yes indeed, et même si ça groove avec la grâce d'un hippopotame arthritique, c'est quand même ça la classe à l'anglaise.
À vos marques, prêts ? Ouais, j'adore cette chanson, je... Sir Paul McCartney a ajouté une date française à sa tournée, ce sera le 28 novembre à la U Arena. Soyez donc prêts à dégainer et noter dans vos agendas. Mise en vente des places le 13 septembre.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi. C'est moi.
Il y a de l'écho.
C'est moi. Merci Charline. Dans la pop culture, il y a aussi l'agriculture, la preuve avec les Rock Farmers ou les Rockers Fermiers en VF du groupe The Inspector Clouseau. Et on écoute Little Girl and the Whistling Train.
Little girl wants to look around. Little girl just hears a sound. Today is the day of the whistling train. Today is the day of the blowing rain. Last day.
Little Girl and the Whistling Train, c'est un morceau signé du groupe landais Inspector Clouseau. Nos petits chouchous, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Clovis Gou, venu nous présenter son livre La Disparition de Karen Carpenter, et vient de nous rejoindre Laurent Chalumeau, bonjour Laurent.
C'est quoi ce bon ?
Chalumeau, vous n'êtes pas fatigué d'entendre cette vanne, Laurent ? Chalumeau ?
On n'a pas le temps.
Non.
Si vous pensez à énumérer des trucs qui me fatiguent chez vous.
Passons aux choses sérieuses. Laurent Chalumeau, je ne vous présente pas Clovis Gou, car vous faisiez partie du jury du prix littéraire Barbès.
J'avais été enthousiasmé par son livre excellent.
Voilà, jury que je le rappelle pour des raisons déontologiques. Je présidais, et je le disais en début d'émission, Clovis Gou n'est pas passé loin de la victoire.
Oui, à ça, la radio,
exactement.
On ne voit pas quel est le...
Pouvez nous en dire un mot, justement, comment ça s'est joué.
Moi et mon index. Les délibérations, j'ai oublié, mais je sais qu'on avait tous été très conquis par son livre. Quand bien même, moi, je considère que la diffusion des chansons des Carpenters, ça fera partie des crimes de guerre qui seront reprochés à Bachar el-Assad quand enfin il passera en jugement. C'est-à-dire qu'en dépit de ses arguments, ça reste pour moi un traumatisme d'enfance et je réussis pas. J'ai fait des efforts après avoir lu son livre en me disant c'est quand même pas possible, t'es pas si con. Ben si, c'est au-dessus de mes forces. Je trouve vraiment que c'est de la merdasse en barre. Et pour autant, son livre m'a absolument passionné. D'une part parce que souvent, les livres sur la musique s'inscrivent dans une tradition rock critique, rock critiquante, un peu surécrite, où on essaye d'écrire rock avec plein d'effets, des gros mots, des images, des analogies. Je suis bien placé pour en parler. Clovis lui a trouvé une langue qui est tout à fait appropriée à son sujet, très clinique, très blanche, très neutre, très ligne claire. Et on sait que c'est paradoxalement la langue qui est la plus difficile à produire et à tenir. Et ça va merveilleusement avec la distance nécessaire à prendre avec la gravité de son sujet, la gravité des tourments dont souffrait son héroïne. Et puis surtout, c'est un livre qui, bien au-delà de son sujet, est une introduction lumineuse et extrêmement pédagogique à la culture pop et à l'americana, des choses qui, pour des gens âgés comme nous, sont très familières. Mais pour des gens plus jeunes qui aiment bien la musique de ces années-là, mais qui n'ont pas forcément certaines références un peu obscures qu'ils entendent manipuler par leurs aînés, ce livre... à côté des Carpenters ou au-delà des Carpenters, comme vous le rappeliez, intègre tout ce qui a conditionné et irrigué la contre-culture américaine de la fin des années 60 et du début des années 70, de façon là encore très lisible, très pédagogue et
non,
éclairante.
N'en jetez plus, la cour est pleine et vous allez faire rougir mon invité.
Je suis flatté, je sais pas quoi dire.
Ah, vous pouvez l'être.
Vraiment.
Mais je
suis pas venu là pour parler
non.
de.
Oui,
de
non, mais je sais justement, nos auditeurs le savent.
Ça à faire,
vous êtes non seulement Laurent, un auteur dont on adore le travail, mais aussi mon poteau depuis presque 40 ans, hein, et surtout notre prescripteur littéraire. Que nous conseillez-vous dans le contexte de
cette
rentrée littéraire ?
Alors, le dernier titre, je le récuse. Non, il se trouve que. J'ai lu ces jours derniers un livre absolument extraordinaire dont l'auteur s'appelle Guy Bellay.
Alors parlez plutôt face au micro.
Oui, voilà, non mais comme je me souvenais plus du titre, je suis obligé de parler face au livre.
Bah, ça s'intitule
« Quand Dieu boxait en amateur » par Guy Bellay.
L'autre solution, c'est de rapprocher le livre.
Guy Bellay va à lui seul faire mentir une espèce de légende urbaine sur l'entre-soi, la connivence et les petits arrangements entre amis qui seraient censés organiser le rythme de publication des romans en France. Tout le monde est convaincu qu'il faut être fils ou fille d'eux, connaître Tartampion, avoir été à l'école avec machin, etc. Rien à voir. Guy Bellay était funambule et directeur de cirque. Mmh. Et c'est à la soixantaine passée qu'il a adressé à toutes les grandes maisons germano-pratines des manuscrits sous enveloppe papier craft, sans être le moins du monde recommandé. Et chez Grasset, il y a une fille qui s'appelle Chloé Deschamps, nommons-la, qui a ouvert l'enveloppe et qui a aimé ce qu'elle avait lu. Et qui
vous
a décidé...
Vous parlez du premier livre sorti
qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle « Fils du feu », et qui était une révélation aveuglante, parce que...
Je vous suis à 100% là-dessus.
Cet homme pratiquait une langue dont on pensait le secret perdu, c'est-à-dire qu'il a une langue d'autodidacte. Il aime le bien écrit, mais le bien écrit qui fleure bon, les morceaux choisis, dont on faisait des dictées ou des explications de texte à l'école. Mmh. Et surtout les poésies. Car avant d'être un romancier, c'est un poète. Ces chapitres sont des poèmes. Alors qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai fait fuir tout le monde. Sauf que c'est de la poésie, si j'ose dire, figurative. C'est-à-dire c'est de la poésie où on comprend tout. C'est de la poésie au sens où il aime les mots, il aime les beaux mots, il aime les agencer de façon surprenante. Et c'est des livres qu'il faudrait lire à haute voix. Et donc, Fils du feu, célébrait, comme son nom l'indique, les métiers de la forge. Et là, dans le nouveau, Quand Dieu boxait en amateur, c'est un cri d'amour adressé à son père. Son père qui était à la fois forgeron lui-même, donc une figure très virile de Vulcain, qui était boxeur amateur, car sa mère, sachant qu'elle allait l'élever seule, et craignant qu'il soit efféminé, allez savoir pourquoi, l'avait inscrit un peu de force à des cours de boxe. Le gars, ensuite, a quand même fini champion de France. Et le livre raconte aussi l'amitié de son père avec son meilleur copain, avec qui ils ont les livres en commun, mais tels qu'on peut avoir les livres en partage quand on grandit dans le lumpen prolétariat de l'Est de la France il y a 40 ou 50 ans. Et son meilleur copain devient curé, ce qui ne les empêche pas de rester potes. Et le curé en charge de la paroisse venant à rejoindre son créateur, le copain du père de Guy Bollet accède à la responsabilité de l'espèce de spectacle pascal qui jusque-là était composé de petites scénettes un peu plan-plan. Et là, le nouveau chef de la paroisse voit grand et veut représenter le mystère de la passion du Christ, mais alors en enrôlant le boucher, la crémière pour faire les Romains, Marie-Madeleine, etc. Et pour faire Jésus, il demande à son copain, bel homme, bel athlète, chéri de ses dames, champion de boxe et chanteur d'opérette, et qui incarne le Christ sur la croix et aux sorties du tombeau, etc. etc. Et donc, Guy Bollet raconte tout ça dans cette langue extraordinaire, unique en son genre, avec une affection filiale qui n'empêche pas la lucidité et qui parlera à tous les gens qui ont eu un père, même et surtout quand ils ont eu parfois des heures difficiles avec lui.
Je crois comprendre que vous conseillez donc ce livre.
Pas à vous, parce que je sais pas si vous êtes capable d'en apprécier vraiment, mais aux autres gens, oui.
Ça s'appelle Quand Dieu boxait en amateur, c'est signé Guy Bollet, c'est édité chez Grasset. Vous a donné envie?
Mais moi, je voulais lire un extrait. Est-ce qu'on pourrait supprimer la cave aujourd'hui?
Non, c'est impossible. Cette séquence est absolument sacrée. Vous voyez, on vous rappelle à l'ordre. Le tournoi manque.
Des envois de gombe,
hélas. D'ailleurs, le tournoi manque parce que vous vouliez aussi évoquer un deuxième choix qui était Une vie de chien, Les compagnons fidèles des grands de ce monde de Stéphane Bern, mais ce sera pour la prochaine fois. Laurent Chalumeau, Clovis Gou, il est exactement 16h51, l'heure très précise pour moi de descendre à la cave. Venez avec moi à la cave, chercher le dernier vinyle de cette émission. Allez, j'y vais. Mais ça glisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais à peine nager, moi. Et pourquoi ma cave est devenue une piscine pour la nuit? C'est quoi ce délire, là?
Laurence Bloch!
Mais si,
regardez sur le mur, là!
Laurence Bloch!
Mais si, avec le maillot rouge!
Ah oui, je vous vois, chère directrice. Oh, très joli bonnet!
Oh, mais c'est pas un bonnet, on prend un
couillon! Oh, autant pour moi, Laurence. Que faites-vous là en maillot? Et pourquoi y a-t-il une piscine ici, d'un seul coup?
C'est mon chalumeau! Il a accepté de venir ici seulement si on avait une piscine pour son cours d'aquagym après l'émission! Vous savez, Antoine, depuis qu'il s'est mis à la natation, ça n'est plus le même
âge. Ah bah oui. Non mais, c'est absolument n'importe quoi. Et moi, je fais quoi, là? J'ai même pas mes brassards! Oh, t'es peut-être pas si mûr que ça, les couettes de la cantine. Bon, enfin, bref, c'est pas que je m'ennuie, mais je suis venu ici pour chercher un vinyle, moi. Mais attendez, ils sont où?
Sous l'eau! Ils sont sous l'eau!
Sous l'eau? Mais c'est quoi ce délire? On dirait une épreuve de Fort Boyard, là. Bon, attendez, j'y vais. Tenez-vous prêts à envoyer la musique en haut, je plonge. Allez!
Tu additionnes, tu multiplies les petits câlins anonymes. Et les cartouches tout en douceur, millésime. Si tu savais ce qu'il faut dire pour la faire mouiller la machine. Je m'allume et je passe sur ma nuelle. Sur tes lèvres comme un lipsis. Et tu caresses ton personnel pour éviter que le vent ne cause. Laisse pas tomber.
Malédiction, c'est un morceau de 1986 signé Alain Bashung. C'est extrait de l'album Passer le Rio Grande. Clovis Gou, Laurent Chalumeau, j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Est-ce que vous les aimeriez laisser, même symboliquement, un objet ici? Clovis d'abord.
Ah bah écoutez, moi j'ai envie de laisser une habituée. Moi je vais laisser Natacha Campouche. Hein, donc. Ouais. Bon, sinon, je lui laisserai le Velvet Underground et puis voilà.
Un album du Velvet.
Voilà.
C'est très aimable de votre part. Et vous, mon cher Laurent?
Je voudrais y laisser 14 tonnes de TNT avec un détonateur réglé sur 5 minutes. De façon que vous arrêtiez de nous faire chier tous les jours avec votre cave.
Je vous garde votre bonnet de bain et vos lunettes de plongée, bien entendu.
Non. Et moi, je voudrais embrasser Bastia, voilà.
On embrasse Bastia.
On embrasse Bastia.
La ville de Bastia au sens large.
Bastia comprendra.
Bastia qui nous écoute.
Voilà.
Bah. Eh bien, Bastia, plein de baisers pour Bastia. Merci Laurent Chalumeau. À très vite pour de nouvelles pop prescriptions. Merci Clovis Gou. La disparition de Karen Carpenter s'est éditée chez Actes Sud et c'est plus que recommandé par Pop Pop Pop.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Demain, dans Pop Pop Pop, lui. Eh oui, celui qui a retourné la cour de l'Élysée pour la fête de la musique vient retourner la cave de France Inter. Kid Ismaël sera notre invité. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos chalumeaux sur YouTube, abonnez-vous. Ça crame les poils à notre podcast. Merci.
C'est pour te faire le maillot en même temps, merci. C'est radical.
Et des baisers à Bastia. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Antoine Théboul, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire. Bonjour Charline Van Hanecker.
Bonjour Antoine.
Qu'est-ce qui va se passer dans Par Jupiter aujourd'hui? Dites-moi
nous
vite.
Nous recevons Gauz, G-A-U-Z, c'est un auteur de romans. Il avait publié Debout payé, qui avait eu beaucoup de succès. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il publie un roman sur la colonisation qui s'appelle Camarade Papa.
Camarade Papa,
tout
c'est dans quelques instants dans Par Jupiter. Ce sera juste après les infos.